chemin de vie.
Bienvenue, amis auditeurs. C'est toujours avec plaisir que nous ouvrons ce nouveau volet de chemin de vie. Cette rubrique est diffusée chaque jour sur votre radio préférée à cette même heure, du lundi au vendredi. Vous pouvez aussi la réécouter sur notre site internet chemindevie.info. Chemins au pluriel et le tout en un seul mot.
Merci Jean pour le rappel de ces coordonnées que nous communiquerons à nouveau à la fin de cette rubrique. De quoi est-il question aujourd'hui, Jean ?
Dans notre étude d'aujourd'hui, nous retrouvons le prophète Zacharie qui se distingue des autres prophètes par ses nombreuses visions. 18 exactement. Au chapitre 3, nous voyons Zacharie en présence d'un ange qui entre en contact avec un responsable religieux du nom de Josué. Puis, un quatrième personnage entre en scène, le diable lui-même.
Notre chroniqueur nous commentera cette rencontre dans un petit moment, le temps d'une chanson intitulée « Nous venons vers toi », interprétée par Jérémy Matina.
Nous venons vers toi pour t'adorer, nous sommes dans la joie de te rencontrer. Dispose nos cœurs à écouter ta voix, Seigneur. Nous venons vers toi pour t'adorer, nous sommes dans la joie de te rencontrer. Dispose nos cœurs à écouter ta voix, Seigneur. Nous venons vers toi pour t'adorer, nous sommes dans la joie de te rencontrer. Dispose nos cœurs à écouter ta voix, Seigneur. Je chante, je prie, car tu es là. Je chante, je prie, car tu es là. J'ouvre ma bouche, j'ouvre mon cœur pour t'adorer, Seigneur. Venons vers toi pour t'adorer, nous sommes dans la joie de te rencontrer. Dispose nos cœurs à écouter.
Le matin, quand je me lève, je crois savoir à peu près comment ma journée va se passer. Mais rien n'est moins sûr parce que je ne suis pas à l'abri d'un contretemps ou même d'un pépin. Par contre, quand je vais au lit, je suis quasi certain qu'il ne m'arrivera pas de grosses surprises, encore que là non plus, ce n'est pas garanti. Preuve en est ce qui est arrivé à Zacharie. Un soir, il est allé se coucher avec l'intention de bien dormir quand subitement, il est entré dans un état second, dans une transe extatique, et a reçu une série de 8 visions. Lui, il n'a pas bougé de la nuit. Par contre, ce qu'il voyait se déroulait dans des endroits différents. Les 2 premières visions ont eu lieu dans une vallée hors de Jérusalem, la 3e à l'intérieur de la ville sainte, tandis que les 4e et 5e visions vont se dérouler dans les cours extérieures du temple. Les trois premières visions décrivent symboliquement la délivrance d'Israël de ce qui l'emprisonne extérieurement, c'est-à-dire de ses ennemis, puis le retour des Juifs de captivité, l'expansion de Jérusalem et la prospérité du pays. La quatrième vision, qui est décrite au chapitre 3, montre la délivrance d'Israël à la fois du peuple et de ses prêtres, de ce qui l'emprisonne intérieurement, de ses péchés. Ici, et contrairement aux trois premières visions, Zacharie n'a pas besoin de poser de questions à l'ange interprète, ni de lui demander des explications parce qu'il connaît tout de suite l'identité des différents acteurs mis en présence, ainsi que la signification de leurs actions. Le chapitre 3 a deux parties. La première contient la vision proprement dite et la seconde, une déclaration de l'ange de l'Éternel au grand prêtre Josué. Je commence maintenant à le lire. « Puis l'Éternel me fit voir Josué, le grand prêtre, qui se tenait debout devant l'ange de l'Éternel, et l'accusateur se tenait à sa droite pour l'accuser. » Verset 1. Le premier personnage identifié est Josué. Il est rentré au pays d'Israël avec Zorobabel et le premier convoi d'Israélites et est devenu grand prêtre de droit héréditaire après la mort de son père. Le livre apocryphe de l'Ecclésiastique lui rend hommage pour sa participation à la restauration du temple après l'exil. Dans la vision, Josué est debout revêtu de ses vêtements ecclésiastiques. Il représente l'ensemble du peuple revenu de l'exil babylonien, lévites et prêtres compris. Il ne faut pas le confondre avec l'homme qui, après avoir été l'aide de camp de Moïse, a dirigé la conquête du pays de Canaan. Josué signifie « Yahvé sauve ». En grec, Yeshu et en français, Jésus. Quand l'ange est venu annoncer à Marie qu'elle serait enceinte, il lui a dit « Tu l'appelleras Jésus, c'est lui en effet qui sauvera son peuple de ses péchés. » Le nom Josué est tout à fait approprié pour ce grand prêtre qui préfigure Jésus-Christ. Dans la vision, à côté de lui, on a l'ange de l'Éternel qui est déjà apparu précédemment. Ce personnage possède les mêmes attributs que l'Éternel et en même temps il est son représentant. Il s'agit en réalité de la seconde personne de la Trinité et donc d'une pré-incarnation de Jésus-Christ. En troisième lieu figure dans ce tableau un personnage sinistre appelé en hébreu le Satan. Ce mot était d'abord un nom commun signifiant l'accusateur, puis il est devenu un nom propre pour Satan, qui est appelé l'accusateur de nos frères dans le livre de l'Apocalypse. Le nom Satan est dérivé d'un verbe qui signifie attaquer, s'opposer à quelqu'un. Les Écritures enseignent qu'il y a non seulement des êtres d'une nature supérieure à l'homme, mais qu'entre eux, il existe des rapports de soumission. Certains sont subordonnés à d'autres. Ceux qui parmi les anges occupent le plus haut rang sont appelés archanges. À un moment donné, tous ces êtres célestes ont été confrontés à un choix. Continuer à obéir à Dieu ou bien se rebeller contre son autorité. Comment des anges sont-ils devenus des mauvais esprits? Ont-ils convoité ou volé quelque chose? Non. Le livre d'Ésaïe nous explique que c'est l'orgueil qui a causé la chute de Lucifer. Je lis le passage. « Comment es-tu tombé du ciel, astre brillant, fils de l'aurore? Toi qui terrassais les nations, comment est-il possible que tu aies été abattu à terre? Tu disais en ton cœur, « Je monterai au ciel, j'élèverai mon trône bien au-dessus des étoiles divines. » Je siégerai en roi sur la montagne de l'Assemblée des dieux, aux confins du septentrion. Je monterai au sommet des nuages. Je serai semblable au Très-Haut. » Même si aucun texte ne le précise, tout porte à croire et à penser que c'est ce même péché d'orgueil qui a transformé des êtres célestes en démons. Le monde des esprits est donc divisé en deux camps opposés. Dans l'un sont les anges qui ont décidé de servir leur créateur, et dans l'autre, ceux qui ont choisi de se rebeller contre lui. Des deux côtés, il y a des chefs exerçant un pouvoir plus ou moins étendu sur les anges qui se sont rattachés à eux. Satan est le plus élevé des esprits opposés à Dieu et à son peuple. Jésus a reconnu son grand pouvoir non seulement sur les anges déchus, mais encore sur terre, en l'appelant le prince de ce monde. Dans cette quatrième vision de Zacharie, Satan vient jouer les troubles fêtes. Alors que Josué remplissait son rôle d'intercesseur pour le peuple, le diable arrive et se place à la droite de l'accusé, selon le protocole judiciaire sous l'Ancien Testament. S'il endosse le rôle de procureur en osant accuser ainsi devant Dieu le grand prêtre personnellement, et avec lui tout le peuple, c'est qu'il a des arguments solides. Et en effet, Satan pouvait faire valoir la culpabilité d'Israël qui l'avait conduit à l'exil, la lenteur et le manque d'enthousiasme des colons juifs à rebâtir le temple et leur froideur spirituelle depuis leur retour au pays. Soit dit en passant que Satan ne manque pas non plus d'arguments à faire valoir devant Dieu contre chacun d'entre nous. Pour cette raison, l'apôtre Jean écrit que nous avons un défenseur auprès du Père, Jésus-Christ le Juste. Parce que les Juifs sont le peuple choisi et aimé de l'Éternel, Satan a une haine particulière contre eux qui s'est manifestée au travers des siècles par un antisémitisme profond et perpétuel de la part de presque toutes les nations. Derrière l'ostracisme des Juifs du Moyen-Âge, les pogroms d'Europe de l'Est ou le nazisme, on peut distinguer la face cachée et le sourire cruel de Satan. Il faut aussi remarquer que dans la vision, Zacharie a vu Josué et il a vu Satan. Ce dernier peut être vu, ce qui veut dire qu'il est une personne réelle et non pas une idée ou une force impersonnelle. La suite du texte montre que des anges sont également présents dans cette vision et ils exécuteront les ordres de l'ange de l'Éternel et de Zacharie. Finalement, nous avons aussi dans cette vision le prophète lui-même qui est plus qu'un simple spectateur puisqu'il va prendre une part active au déroulement des événements. Le texte dit que Josué, le grand prêtre, se tenait debout. Cette phrase est utilisée dans le sens du serviteur au service de son maître, du plaintif ou de l'accusé qui comparaît devant le juge, et aussi du prêtre ou lévite qui exerce ses fonctions officielles. Sous la loi, le grand prêtre se tenait devant Dieu au nom de et à la place du peuple d'Israël. Je continue le texte. L'Éternel dit à l'accusateur, « Que l'Éternel te réduise au silence, accusateur. » Oui, que l'Éternel te réduise au silence, lui qui a choisi Jérusalem. Celui-ci n'est-il pas un tison arraché du feu ? Verset 2. À la place de l'Éternel, l'ancienne version syriaque dit « L'ange de l'Éternel dit à l'accusateur ». Puisque cette personne s'adresse à l'Éternel, on peut considérer que c'est l'ange de l'Éternel et qu'il est appelé l'Éternel. Ça prête à confusion parce que, comme dans bien d'autres passages de l'Ancien Testament, l'ange de l'Éternel à la fois se distingue de l'Éternel et se confond avec lui, ce qui apparaît clairement quand il parle pour Dieu à la première personne. Comme je l'ai déjà dit, l'accusation de Satan contre Josué est fondée, mais elle est rejetée sur la base du choix souverain par l'Éternel de Jérusalem et d'Israël comme son peuple. Moïse a dit aux Israélites, « Si l'Éternel s'est attaché à vous et vous a choisi, ce n'est nullement parce que vous êtes plus nombreux que les autres peuples. En fait, vous êtes le moindre de tous. Mais c'est parce que l'Éternel vous aime et parce qu'il veut accomplir ce qu'il a promis par serment à vos ancêtres. C'est pour cela qu'il vous a arraché avec puissance au pouvoir du Pharaon, roi d'Égypte, et qu'il vous a libéré de l'esclavage. » Et l'apôtre Paul écrit, « Non, Dieu n'a pas rejeté son peuple qu'il s'est choisi d'avance, car les dons et l'appel de Dieu sont irrévocables. Celui-ci n'est-il pas un tison arraché au feu ?» est une expression proverbiale. Israël a déjà été puni par de sévères défaites militaires, par la captivité babylonienne, la destruction de Jérusalem et toutes les villes principales. Son pays a été ravagé puis occupé par des étrangers. Tous ces malheurs ont presque réussi à rayer la nation de la carte géopolitique du monde et à exterminer le peuple choisi. Mais, dans sa miséricorde et en accord avec les promesses faites aux ancêtres Abraham, Isaac, Jacob et au roi David, l'Éternel a ramené un premier contingent de Juifs dans le pays promis. Par conséquent, Israël ne sera pas à nouveau jeté dans le creuset du jugement et la plaidoirie de l'accusateur est sans mérite devant l'Éternel. John Wesley, le fondateur des églises méthodistes, disait de lui-même qu'il était un tison arraché au feu. Il est probable que de nombreux croyants se considèrent aussi de cette façon, parce que quand ils regardent autour d'eux, ils constatent qu'il y a vraiment très peu de gens qui ont placé leur confiance en Jésus-Christ pour leur salut. Alors ils se disent qu'eux-mêmes ont eu foi en lui par chance, à cause de circonstances fortuites. Mais avec Dieu, le hasard et les coïncidences n'existent pas. Tous les croyants ont été délibérément choisis pour être sauvés. Je continue le texte. Or, Josué était couvert d'habits très sales et il se tenait devant l'ange. Verset 3. Chaque fois que le grand prêtre officiait devant l'Éternel, il devait porter des habits sacrés très élaborés. Je lis un passage. « Le grand prêtre se revêtira d'une tunique sainte, en fin lin. Il mettra des caleçons de lin, se ceindra d'une écharpe de lin et se coiffera d'un turban de lin. Il mettra ses vêtements sacrés après s'être lavé le corps dans l'eau. » Oui, mais dans la vision, le grand prêtre porte des vêtements particulièrement sales. Littéralement, le texte hébreu dit qu'il est couvert d'ordures. Non seulement son aspect est épouvantable, mais il semble mauvais. Cette violation flagrante des exigences divines demande la peine de mort, et c'est ce que fait valoir l'accusateur contre Josué. En tant qu'individu, le grand prêtre n'est évidemment pas parfait. C'est un pécheur comme vous et moi, et il a des fautes à se reprocher comme sa façon d'élever ses fils, par exemple, parce que ceux-ci sont montrés du doigt dans le livre d'Esdras. Je lis le passage. « Voici quels étaient les prêtres qui avaient épousé des femmes étrangères parmi les descendants de Josué. » Maaseïa, Eliezer, Yarib et Guédalia, les prêtres qui représentent la crème de la nation, devaient donner l'exemple au peuple. Mais au lieu de mener une vie irréprochable, ils avaient dégénéré. Non seulement en tant qu'individu, Josué est fautif, mais en tant que grand prêtre, il représente et personnifie tout Israël. En effet, dans ses fonctions sacrées, il intercède pour la nation, il porte le poids de sa culpabilité et entre dans le lieu très saint une fois par an. Dans la vision, son costume de cérémonie, souillé, symbolise l'état moral et spirituel de la nation d'Israël devant l'Éternel. Quand Zacharie a eu cette vision, le temple n'était pas reconstruit et donc l'ensemble complexe et contraignant du système lévitique ne fonctionnait pas. Cependant, l'autel des holocaustes qui se trouvait à l'extérieur du temple était utilisé par les Juifs. Mais comme le montre cette vision, les sacrifices offerts n'accomplissaient pas leur rôle parce que le peuple respectait un rite par nécessité, mais leur cœur n'y participait pas. Et de toute façon, aucun animal égorgé devant l'Éternel n'a jamais ôté une seule faute. Tout au plus, le sang versé des animaux couvrait les péchés, mais sans jamais les expier. Dans cette vision, Josué est une image annonciatrice de l'œuvre de Jésus-Christ qui, par son sacrifice, a effacé à tout jamais toutes les fautes de tous ceux qui placent en lui leur confiance. Lui, sans péché, il a porté nos péchés. L'apôtre Paul écrit « Celui qui était innocent de tout péché, Dieu l'a condamné comme un pécheur à notre place pour que, dans l'union avec le Christ, nous soyons justes aux yeux de Dieu. » Josué est couvert d'immondices qui symbolisent les fautes du peuple de Dieu. « Et il se tenait devant l'ange, » dit le texte. Le grand prêtre reconnaît sa culpabilité et celle de son peuple et reste bouche cousue parce qu'il n'a rien à dire pour sa défense. Il ne peut qu'implorer la miséricorde divine. Josué est dans la même situation que la femme adultère prise sur le fait dans l'histoire que nous raconte l'apôtre Jean. Mise au banc des accusés par les chefs religieux, elle n'a pas essayé de se justifier car elle n'avait rien à dire. Dans les visions précédentes, le plan de Dieu pour Israël a été révélé dans toute sa splendeur. L'Éternel va juger tous ses ennemis et restaurer son pays. Il va choisir à nouveau Jérusalem pour y habiter et comblera son peuple de bienfaits. Mais Dieu ne peut tenir ses promesses que si les Israélites sont purs à ses yeux. Alors, comment le Dieu trois fois saint peut-il accorder toutes ses bénédictions à un peuple couvert de péchés, comme le témoignent les habits souillés de Josué? Comment réconcilier la grâce de Dieu avec sa justice? Je continue le texte. L'ange s'adressa à ceux qui se tenaient devant lui et leur ordonna « Ôtez-lui ses vêtements sales !» Et il ajouta à l'adresse de Josué « Regarde, j'ai enlevé le poids de la faute que tu portais et l'on te revêtira d'habits de fête. » Verset 4. Le mot pour habit de fête signifie « habit qu'on ôte », c'est-à-dire des vêtements qu'on ne porte qu'à titre exceptionnel et qu'on remet au placard une fois l'occasion passée. Devant les anges à son service, l'ange de l'Éternel répond à la supplication silencieuse de Josué en prenant sa défense contre Satan, comme Jésus a pris la défense de la femme adultère contre les chefs religieux. Dans son état présent, Josué ne peut pas se tenir devant Dieu et donne libre cours aux accusations de Satan. Alors, le premier acte de grâce divine est d'enlever ses vêtements souillés. C'est le pardon qui est accordé aux coupables. Le second acte de grâce est de revêtir le grand prêtre d'habits de fête qui représente l'état de justice qui lui est accordé. Cette quatrième vision est une image très parlante de l'état des croyants sous la Nouvelle Alliance. L'apôtre Paul écrit « Dieu déclare les hommes justes par leur foi en Jésus-Christ, et cela s'applique à tous ceux qui croient, car il n'y a pas de différence entre les hommes. Tous ont péché, en effet, et sont privés de la glorieuse présence de Dieu, et ils sont déclarés justes par sa grâce. » C'est un don que Dieu leur fait par le moyen de la délivrance apportée par Jésus-Christ. Parce que Jésus est mort sur la croix, tout être humain peut venir à Dieu tel qu'il est, revêtu d'habits couverts d'immondices. Mais par grâce, Dieu ôte nos vêtements puants et nous revêt d'habits de noces qui symbolisent la justice de Jésus-Christ. Ainsi vêtu, Satan ne peut plus rien me reprocher. L'apôtre Paul écrit « Si Dieu est pour nous, qui se lèvera contre nous ? Qui accusera encore les élus de Dieu ? Dieu lui-même les déclare justes. Qui les condamnera ? Le Christ est mort, bien plus, il est ressuscité, il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. »
Que nos vies soient des vases, tel est le titre du chant interprété à l'instant par le groupe Flamme.
Si vous souhaitez recevoir gratuitement le texte de ce jour, appelez aux heures de bureau au 09 50 31 62 62. Appel gratuit depuis une box. 09 50 31 62 62.
Ou connectez-vous sur notre site internet chemindevie.info. Chemins au pluriel et le tout attaché. Il est temps maintenant de nous quitter. Nous vous disons au revoir et à bientôt.